Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, présentée par Nicolas Tarade.
Le chauffage, la ventilation, la climatisation, le système CVC est l'un des plus gros postes de consommation d'énergie, aussi bien dans l'habitat particulier que dans les entrepôts et bâtiments tertiaires. Comment optimiser son sujet, comment maîtriser la maintenance et réduire les charges, là est toute la question. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du bâtiment optimisé, une émission coproduite par Axéo. L'idée c'est quoi ? L'idée, eh bien, c'est de donner la parole à celles et ceux qui savent, qui agissent au quotidien sur le terrain, c'est vous donner des informations pertinentes, pédagogiques aussi, c'est décrypter les sujets, c'est vous aider à trouver les solutions les plus performantes. Voilà pour le pitch, pour le casting. Mathieu Le Drezen est avec nous en plateau, directeur commercial chez Axéo. Bonjour Mathieu.
Bonjour Nicolas.
Vous allez bien ?
Et ça va très bien.
En pleine forme, ouais.
En pleine forme, chaudement bon, aujourd'hui.
Parfait.
Ça tombe bien pour parler de chauffage.
Oui, c'est ça, on va parler chauffage. Et puis en face de vous, pour débattre de cette thématique, on le sait ô combien intéressante, importante aujourd'hui, Raphaël Trochu, chargé immobilier et achat chez Apage Yvelines. Bonjour Raphaël.
Bonjour Nicolas.
Pareil, même question, vous allez bien ?
Très bien, hein. Comme disait Mathieu, chaudement. Hein. Donc je parlais plutôt de la climatisation, moi, que le chauffage, là, eh bien, aujourd'hui.
Bon, ben parfait, on est complémentaires comme ça.
C'est
d'ailleurs,
ça.
Apage Yvelines, en quelques mots. C'est une association nationale, départementale. Comment on pourrait la décrire en quelques mots ?
Donc l'APAGE Yvelines, qui signifie association pour adultes et jeunes handicapés, donc avec le siège social basé à Guyancourt. Donc c'est une structure départementale qui est rattachée à une fédération nationale, où donc sa mission principale c'est de s'occuper de personnes en situation de handicap. C'est de répondre au maximum de toutes les pathologies qui existent. Et donc notre structure, NOCT, qui est dans les Yvelines, donc est composée d'une vingtaine d'établissements avec pas loin de 700 collaborateurs. Et donc on s'occupe d'à peu près 1200 personnes au quotidien. Voilà.
Et vous, votre quotidien, justement ?
Et donc moi, mon quotidien, donc moi je suis basé directement au siège social, hein, je suis on va dire à la tour de contrôle. Et donc mon rôle, en fait, c'est d'accompagner les différentes directions de l'association, hein. Donc qui est répertorié par pôle, hein. Un pôle correspond à un handicap bien spécifique, et donc je les accompagne sur toute la partie travaux, maintenance, sinistre, et aussi en parallèle essayer de trouver des solutions pour optimiser les dépenses de l'association.
Eh bien bravo Raphaël Trochu, voilà. Je suis Mathieu Le Drezen. Pourquoi aujourd'hui ce sujet ? Bien, c'est très simple, l'installation CVC est un organe vital, hein, dans un bâtiment. Elle représente souvent jusqu'à 50% des charges entre l'achat, la maintenance et l'énergie. Le sujet est très technique, le coût de l'énergie augmente sans cesse, les contrats prestataires sont très hétérogènes, les pannes aussi sont très impactantes. Et pourtant, les marges de progression sont souvent très grandes. Voilà tout l'enjeu de ce sujet, comment réussir finalement à optimiser la gestion de mes installations, comment réduire mes charges tout en augmentant la qualité du service. Beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre le plus précisément possible avec nos invités du jour. Ce que je vous propose donc, eh bien, c'est de rentrer dans le vif du sujet.
Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
Avec une première question, peut-être pour poser un petit peu le cadre de ce débat, le BABA, c'est quoi un petit peu le BABA du chauffage collectif, les bases à connaître, Mathieu Le Drezen ?
Eh bien, les systèmes collectifs aujourd'hui sont des installations complexes et, comme vous l'avez dit Nicolas, au cœur du système des bâtiments, donc que ce soit en chauffage, en traitement de l'air, en refroidissement, on a à la fois à gérer la production, la distribution, l'émission de la chaleur, du froid. Et forcément, on a de l'interaction entre différents fluides, l'air, l'eau, le combustible et les matériaux qui sont utilisés, ne serait-ce que le métal par exemple, hein, qui intervient énormément dans ces sujets. On n'a pas de réglementation unique, c'est-à-dire que sur d'autres systèmes ou sur d'autres périmètres, on a une réglementation très claire et cadrée qui impose. Sur la notion du chauffage ou du refroidissement, on a beaucoup plus de notions de normes, par exemple. Et les périodes de construction ont amené une grande hétérogénéité des systèmes, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet complexe. En plus de ça, on va rajouter un autre point, c'est que vous avez souvent des installations collectives, par exemple pour la production. Mais par contre, quand on va être dans la notion d'émission, on va être dans des parties privatives quand on pense aux copropriétés, que ce soit d'habitation ou tertiaire.
Donc il faut être vraiment sur ces deux plans.
Tout à fait. Et puis sur un deuxième point, oui, je rajoute que, vous l'avez dit également, mais d'un point de vue contractuel, on a parfois différents prestataires qui interviennent. On n'est pas obligé d'avoir un prestataire unique pour traiter à la fois le chauffage et le traitement de l'air, par exemple. Et ces mêmes contrats sont très hétérogènes, dépendent à la fois du prestataire, dépendent des choix des propriétaires sur la mise en place. Donc pour les termes qu'on connaît tous, le P1, P2, P3, qui va parfois jusqu'à des P4, P5. Et évidemment, différents types de marchés, ou en tout cas de fourniture du matériel ou du combustible. Donc ça crée une grosse nébuleuse. Et aujourd'hui, les propriétaires, copropriétaires ou exploitants peuvent vraiment être perdus dans ce fonctionnement à la fois technique et réglementaire.
On le comprend dans ce que vous dites, c'est un vrai sujet dans les bâtiments collectifs. En quoi, Raphaël Trochu, c'est un vrai sujet dans les bâtiments ?
Bah, je rejoins Mathieu par rapport à son intervention. Effectivement, c'est un sujet primordial, hein, puisque les constructions qui sortent aujourd'hui de terre, tout est déjà cadré par rapport à la réglementation qui a été définie, aux besoins réduire un maximum les dépenses, assurer un confort. Donc on parle beaucoup de confort l'hiver, mais aujourd'hui je pense qu'il y a le confort l'été. Moi j'ai toujours rappelé ça à mes copropriétaires quand j'étais syndic à l'époque, c'est de ne pas penser qu'au chauffage, hein. Là on le voit aujourd'hui, hein, il va faire 35 degrés. Si on se retrouve dans une épave thermique, on a quasiment la même température à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et après, effectivement, c'est un peu la spécialité de la France. C'est qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là, en fait, on se retrouve avec un millefeuille. On a eu des réglementations de construction qui étaient basiques à une époque. Au fur et à mesure, ça s'est rajouté. Et pareil, hein, pour tout ce qui est obligations liées aux matériaux, etc. Et donc aujourd'hui, quand on est un gestionnaire, en fait, on peut se retrouver avec un parc qui va être totalement hétérogène, et on va se retrouver avec des plans d'action qui vont être à adapter en fonction de la typologie du bâtiment et des installations. On va pas avoir la même gestion d'un bâtiment des années 60 ou 70 qu'un bâtiment des années 80, 90, voire même tout début 2000. Hein. Enfin, on pense que certaines constructions qui sont sorties de terre en tout début 2000, enfin même avant 2005, il y en a certains. Enfin, moi, je les mets aussi dans la catégorie des bâtiments qui ont des défauts, et s'il n'y a pas d'action à moyen long terme, ça va se ressentir, soit sur les coûts ou alors sinon l'inconfort.
Ben justement, c'est ce problème là de la complexité administrative. On a parlé du millefeuille très français. Comment on pourrait simplifier tout ça pour justement optimiser au maximum? Est-ce que c'est possible? Comment inciter de plus en plus à le faire? Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, la rénovation énergétique, l'isolation thermique par l'extérieur. On parle du confort de l'été, vous l'avez dit. Comment réussir à simplifier tout ça?
Déjà, le premier point, et je pense que dans ce qu'a dit Raphaël, on le ressent, c'est que la complexité amène déjà à se dire il faut se poser les bonnes questions. Donc se poser les bonnes questions, c'est faire un état des lieux sur quel est mon matériel en place, quel est le type de contrat, quelles sont les prestations qui sont dues à mon contrat, qu'est-ce que je peux demander à mon exploitant. Les exploitants sont aussi demandeurs d'accompagnement pour qu'on les aide à s'améliorer. Ils ont leurs propres méthodes et leurs propres process, mais ils doivent être moteurs dans l'amélioration de ce fonctionnement. Il y a également écouter les usagers. Vous avez beaucoup de points aujourd'hui qui peuvent remonter. Une problématique est souvent remontée par un usager, hein, que ce soit sur trop chaud, trop froid, la problématique d'équilibrage dans les bâtiments. C'est vraiment une notion qui est l'écoute des propriétaires ou des utilisateurs des bâtiments. C'est un vrai point. Quand on va parler sur la partie tertiaire, on a de toute façon énormément d'impact à venir sur les systèmes CVC. Les réglementations, pour le coup, sont beaucoup plus précises et cadrées aujourd'hui sur les attentes, en tout cas. On ne va pas dans le focus de dire « je vous attends sur tel poste », mais en tout cas, on attend des baisses importantes de consommation sur nos bâtiments.
Quand vous dites ça, vous évoquez le décret tertiaire ?
Notamment.
Notamment, Raphaël Trochu, sur ce que vient de dire Mathieu Ledrezen.
C'est vrai que de toute façon, c'est la rénovation énergétique, même aussi hein, quand on pense à le changement climatique, c'est un sujet qui existe depuis quand même plusieurs années. Quand on pense au monde de la copropriété, tout ce qui est habitation, les résidences en chauffage collectif, eux, ont eu l'obligation de réaliser des audits énergétiques. Il y a déjà quand même plusieurs années, hein, ça fait bientôt 10 ans. Il y a eu aussi, pour inciter à faire des travaux, hein, avec la loi Grenelle, hein, il y a eu la mise en place des certificats d'économie d'énergie. Il y a eu les crédits d'impôt, enfin, il y a eu tout ça. Enfin, moi, mon avis, c'est que aujourd'hui, on en parle de plus en plus, alors que, enfin, c'est un sujet qui a été un peu bâclé, je trouve, hein, depuis de longues années. Je me souviens d'une phrase d'une ancienne ministre, Ségolène Royal, qui parlait de la rénovation énergétique dans les copropriétés. Donc, qui disait, on attend des syndics, que ce soit les ambassadeurs. Qui pensent à leurs copropriétaires, qui pensent à leur faire des économies, etc. Mais après, je pense qu'il y a les outils qui n'avaient pas été donnés à ce moment-là. Et puis bah là, mine de rien, on a tout l'environnement, hein, que ce soit le dérèglement climatique qui est énormément accentué. Enfin, on le constate de jour en jour. Il y a aussi la politique européenne qui met aussi la pression. On s'y prend un peu au dernier moment.
Oui.
Et donc moi, en fait, j'ai toujours appliqué ce principe, c'est d'essayer d'anticiper au maximum et d'avoir le temps de travailler, pas travailler comme un pompier, en fait, ce que beaucoup de gestionnaires font aujourd'hui. Donc du coup, comme Mathieu le disait, enfin là-dessus, je le rejoins, et c'est ce que moi j'applique dans mon quotidien en tant que gestionnaire, c'est que déjà, en fait, je vais me poser les bonnes questions. Aujourd'hui, quelle est la base de fonctionnement de ce bâtiment-là ? Quels sont ses défauts ? Quels sont ses contrats ? Quelles sont ses dépenses ? Quelles difficultés vont ressentir les utilisateurs ?
Une radiographie du bâtiment ?
Tout à fait. C'est une photographie complète. Et ensuite, on identifie les différentes priorités d'action. Soit en fonction des obligations réglementaires, hein, parce qu'il y a de ça aussi, hein, il y a souvent beaucoup de retard. Il y a aussi tout ce qui va être lié à des pannes, à de l'inconfort, etc. Et suite à ça, on décide de mettre les actions en place. Et c'est vrai que moi, mes principales priorités pour moi, ça va être tout ce qui va toucher les organes, on va dire, du bâtiment. Donc en parlant de tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation, c'est essentiel pour le quotidien de chacun, hein, enfin, qu'on habite dans un appartement ou une petite maison, ou pour mon cas, dans mon association, on a des établissements qu'on appelle des foyers d'accueil médicalisés. Vous avez une quarantaine de résidents qui sont là toute l'année. Hein, donc pour eux, c'est leur habitation principale. Et donc moi, mon rôle avec celui des directeurs d'établissement, hein, c'est de faire ce qu'il faut pour qu'eux déjà, ils aient chaud, ils aient de l'eau chaude. Et ils sont rafraîchis l'été. Et aussi, bien évidemment, hein, que le bâtiment soit bien ventilé. Je me perds un peu.
Non, vous êtes là donc sur l'usage
voilà,
du bâtiment,
sur l'usage,
sur le confort
et
des usagers.
Et bien évidemment, ça va être nous la priorité. Et bien après, derrière, on va regarder ce qu'il y a en coulisses. Donc les contrats, est-ce que le contrat est bien fait ? Est-ce que le prestataire est bon aussi, hein ? Est-ce qu'il est réactif quand on a des problématiques ? Est-ce qu'aussi il va jouer son rôle de conseil ? Parce qu'on peut souvent se retrouver... moi, je l'ai été confronté quand j'étais syndic. On se retrouve avec, par exemple, une chaudière qui lâche. Le prestataire, met un peu de temps à répondre. Il nous dit, attention, il faut qu'on remplace la chaudière. On va remplacer à l'identique. Et en fait... En étant après, derrière, accompagné de certains experts, on se rend compte que face à nous, on a un prestataire qui n'est pas bon. C'est qu'en fait, il va remplacer à l'identique sans avoir une réflexion qui va nous permettre de faire des économies d'énergie parce qu'il y a des nouvelles installations qui existent. Chance
d'optimiser, d'améliorer.
Voilà, tout à fait. Et moi, j'ai eu ce cas-là dans le cadre de ma gestion, en fait, par rapport à certaines gestions des partenaires qu'on peut avoir, en fait. On peut avoir, nous, une perte de chance, du coup. Une perte de chance par rapport à l'investissement qu'on aurait pu faire sur une nouvelle génération d'équipements, une perte de chance sur, j'en parlais tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie. Tout va être lié, en fait, et il suffit qu'il y ait un grain de sable, et puis...
C'est ça, chaque maillon est essentiel.
Tout à fait. Et à un moment donné, on peut se retrouver avec des grandes difficultés si on n'est pas tout de suite en alerte sur les voyants rouges, quoi. Alors que certains n'agissent pas. Enfin, ils regardent, ça clignote, mais bon, on attend, on repousse le problème, on verra plus tard.
Mathieu Le Dresen, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure sur le tertiaire, le décret tertiaire. Est-ce que c'est une des solutions, une façon d'optimiser ? Qu'est-ce qui se retrouve un petit peu à l'intérieur dans les grandes lignes ?
Ça fera forcément partie de toute façon des optimisations et moyens, on va dire, d'atteindre les objectifs, puisqu'on a quand même, trois échéances qui, mine de rien, sont quand même assez proches, 2030, 2040, 2050. Et 2030, on a moins de 10 ans pour amener des bâtiments à faire 40% d'économie d'énergie, donc ce qui n'est pas neutre. Et surtout, aujourd'hui, on a des budgets estimés, qui ont déjà plusieurs fois été donnés, mais globalement de 180 à 200 euros du mètre carré pour atteindre la performance souhaitée. Et si on n'anticipe pas, il est illusoire de penser qu'en 2029, on pourra tous dépenser 200 euros par mètre carré de bâtiment tertiaire. Donc évidemment, il y a une anticipation qui a été un terme important qu'a dit Raphaël. C'est plus je fais mon constat, mon état des lieux, avec cette possibilité de programmer, d'informer mes usagers, voire mes propriétaires, mes investisseurs, sur qu'est-ce qui va être amené pour maintenir ce bâtiment en termes d'usage et l'amener à une performance énergétique intéressante. Sans cette anticipation, aujourd'hui, on est aveugle. Donc pour pouvoir faire ça, il y a cette nécessité de constat et de projection dans le temps. L'autre point, c'est que quand on parle justement de ces fameux budgets d'investissement, c'est que vous avez, en général, dans chaque immeuble, copropriété, foyer, il y a forcément ce qu'on appelle chez nous des quick wins, donc vraiment des gains assez rapides à faire, et parfois sur de l'optimisation simplement contractuelle, parce qu'on paye le combustible un peu cher, parce qu'on va avoir un contrat qui n'est pas optimal par rapport au système. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque immeuble est différent. On ne peut pas faire de grandes généralités sur mon contrat doit être de tel type pour l'ensemble d'un parc. C'est vraiment du spécifique. À partir du moment où je suis dans cette recherche de solutions, d'optimisation, d'amélioration, on va effectivement permettre de combler le retard qu'on a pris et d'éviter de dépenser énormément d'argent d'un seul coup, mais plutôt de répartir dans la durée. Et pour un certain nombre de propriétaires, c'est gage de sérénité que d'anticiper.
Donc il faut qu'il y ait cette prise de conscience aussi.
Elle doit l'être. Elle doit l'être. Et je pense qu'elle l'est aujourd'hui. Elle est poussée par la réglementation. Elle l'est aussi par tout ce qui va être prescripteur. Nous, en tant que bureau d'études, les associations, les syndics de copropriété, les property managers, toutes ces entités qui sont au contact des usagers ou des propriétaires investisseurs, on doit tous être dans le même bateau.
Bon, on a commencé à l'évoquer, mais quelles sont les bonnes pratiques pour les gestionnaires qui nous écoutent en ce moment ?
Bah déjà, moi, ce que j'appliquais beaucoup, c'était de communiquer, expliquer. Parce que, par exemple, j'avais donc des copropriétés des années 70. Je reprenais l'immeuble et en regardant dans le tiroir, il y avait un audit énergétique qui avait été fait. Personne ne l'avait utilisé. C'était tout de suite... on l'a fait parce que c'était obligatoire. Je répondais, je comprends, mais en général, si quelque chose est imposé, c'est que derrière, il y a quand même un intérêt. J'avais lancé toute une communication, bien évidemment en étant entouré, parce que derrière, il y a beaucoup de solutions qui existent. On peut être accompagné d'experts comme au bureau d'études Axéo, mais moi je travaillais beaucoup avec l'espace Info Énergie, donc qui a été mis en place par le gouvernement. Hein, c'est typiquement accompagner les particuliers, les propriétaires, les copropriétaires dans tout ce qui est rénovation énergétique. Le fait de faire une longue communication, moi ça a duré plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai plein d'exemples où on parlait de ravalement. Déjà au départ, tout le monde pensait qu'on allait partir sur un ravalement, juste un coup de peinture.
Oui, un simple ravalement et que finalement il fallait peut-être faire une rénovation BBC.
Et donc moi j'avais tout un process de communication en disant attention, il y a votre audit énergétique. L'audit énergétique dit qu'il faut ça. Il y avait aussi des obligations d'isoler par l'extérieur. Ensuite, l'espace Info Énergie. Expliquer bien, il faut procéder comme ci, comme ça, machin. Ensuite, j'arrivais donc à convaincre pour prendre donc une maîtrise d'œuvre qui allait pouvoir nous accompagner sur toute la partie technique pour la réalisation de ces travaux. Après, en parallèle, on pouvait aussi mettre en place une ingénierie financière pour bien expliquer aux copropriétaires aujourd'hui, vous pensez qu'un ravalement, ça coûte tant, juste un coup de peinture. Ça vous fait peur quand on vous dit que ça coûte beaucoup plus cher d'isoler par l'extérieur. Mais avec toutes les subventions qui existent aujourd'hui, qui sont faites pour vous inciter à faire des travaux, et derrière, vous allez faire aussi des économies sur votre consommation de chauffage, etc. En fait, on se retrouvait au bout de 3 ans, face aux copropriétaires à dépenser des milliers d'euros. Enfin, pour certains, pour eux, c'était cet été, je pars pas en vacances. Ça passait comme une lettre à la poste parce qu'ils avaient eu toute la communication, ils avaient eu aussi toute la démonstration. Les gens ont besoin d'éléments factuels, donc on faisait des simulations de code-part, etc., en leur disant voilà, vous payez tant, vous allez avoir tant de subventions via la copropriété, vous allez voir l'espace info-énergie pour avoir vos subventions directement individuelles. Et au final, on avait certains copropriétaires, enfin, souvent c'était des personnes âgées. On avait une cote-part de départ de 8000 euros et ils se retrouvaient à payer 800 euros grâce à toutes ces subventions.
Toutes les subventions.
Et donc, au final, cet été, ils sont contents.
Donc
c'est isolé.
Les maîtres mots, communication, anticipation, expertise avec Axéo notamment.
Expertise, ouais, c'est ça.
On est vraiment sur ce triptyque-là.
C'est fait.
Pour avoir le diagnostic le plus fidèle, le plus fiable possible aussi au début, et puis pouvoir entamer ces travaux de rénovation énergétique derrière, d'optimiser finalement les coûts et l'installation. Un exemple peut-être concret, vous, chez Apage, Yveline, en ce moment, un projet en cours où justement il y a tout ce qu'on vient d'évoquer là depuis déjà 20 minutes d'émission.
Alors, donc moi, j'ai intégré Apage Yveline en mai 2020, donc après une expérience de 5 ans chez Foncia en tant que gestionnaire copropriété. J'avais même commencé directement à l'école Foncia, où j'avais eu directement des interventions d'experts en rénovation énergétique. Donc, j'ai été touché par ça. Donc, à Apage Yveline, je suis arrivé. Un établissement qui s'occupe de 40 personnes au quotidien. Donc, il y a le double en professionnel, des personnes qui sont touchées par le polyhandicap. Donc, en arrivant, on m'informe que c'est un établissement qui est 2008, donc pas vieux, mais qui se retrouve avec énormément de problématiques liées à sa production de chauffage, d'eau chaude, de la ventilation, traitement d'air et la climatisation. Donc, je prends le dossier en main, je rencontre la direction, les professionnels, etc. Donc, on me fait remonter les difficultés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'était aussi d'avoir l'historique, puisque avoir autant de problématiques sur un bâtiment qui avait un peu plus de 10 ans, en reprenant l'historique, on se rend compte que l'établissement avait quasiment dépensé plus de la moitié du prix de l'installation. Donc là, tout de suite, on se dit quand même qu'il y a un souci. Après, on creuse le contrat. En fait, on se rend compte que dans le contrat, il n'y a rien du tout. Donc moi, suite à ça, j'ai donc présenté à la direction générale d'être accompagné d'un expert, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Donc je me suis rapproché d'Axéo. Donc on a suivi le process que je faisais habituellement sur mes copropriétés. On commençait par réaliser un diagnostic de toutes les installations pour voir les points verts, orange, rouge. Qu'est-ce que fait bien le prestataire? Qu'est-ce que fait mal le prestataire? Est-ce qu'on est en accord ou pas avec la réglementation? Et donc, une fois qu'on avait la photographie, on a rencontré le prestataire, on lui a expliqué comment est-ce qu'il fallait qu'on gère maintenant une installation. Enfin, on est pu intervenir, juste réparer une fuite et puis après, on s'en va. Donc, ça a déjà permis de purger pas mal de problématiques. Et donc, ensuite, derrière, c'est ce qui a été fait assez rapidement, c'est de dire le contrat qu'on a aujourd'hui, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté parce que, au niveau de la maintenance, on se retrouve avec des obligations qui sont vraiment minimes pour l'exploitant. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, les investissements ont totalement explosé pour un bâtiment qui avait plus de 10 ans. Et donc, en fait, on se retrouvait avec un simple contrat P2, peu fourni, et pas de contrat P3. Donc, avec des variations d'investissement qui étaient ingérables pour nous. Donc, on se retrouvait à, mine de rien, décaler des investissements pour certains conforts usagers, ce qui est pour nous inconcevable. Et donc là, donc c'était tout début d'année 2021. Il y a tout le process de l'appel d'offres qui s'est mis en place. Et là, vous voyez, il y a une semaine, ça s'est terminé. Au final, on retient l'exploitant qui était déjà en place, sauf que on a un contrat qui est beaucoup plus
efficace,
fourni.
Pertinent, fourni.
On se retrouve avec de la qualité, de la transparence, et derrière, en intégrant une partie P3, on se retrouve en fait à, on espère mieux maîtriser aussi les dépenses, parce que donc le P3, hein, c'est C'est une sorte de cagnotte, hein, enfin, pour les copropriétés, hein, pour les comparer à un fonds de travaux. Donc c'est une enveloppe qui est constituée tout au long de l'année, et l'exploitant, lui, peut l'utiliser pour remplacer des pièces qui sont hors cadre d'exploitation classique. Et ce qui permet derrière d'avoir de la réactivité, parce qu'on évite le signal de vie, le gestionnaire reçoit le devis, je négocie parce que les tarifs, machin, etc. Tout est cadré en amont, donc derrière, on se retrouve avec une réactivité. Et donc aujourd'hui, on va avoir un nouveau contrat qui va démarrer. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais bon, dans mes précédentes expériences, hein, j'ai suivi exactement le même processus. Bon, c'était encore avec Axéo, mais effectivement, j'ai des retours, hein, sur mes anciens immeubles, hein, que je gère à Chartres. Et il y a de l'amélioration. C'est certain. Voilà.
C'est le mot, c'est le message qu'il faut garder. Vous qui nous écoutez, j'espère que l'émission vous plaît. C'est passionnant, en tout cas. D'ailleurs, vous nous avez posé des questions. Eh bien, les experts en plateau, ici, vont tenter d'y répondre.
Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond.
Avec une première question d'auditeur. La voilà. Apparemment, ma chaufferie est une ICPE depuis 2020. Qu'est-ce que c'est, l'ICPE?
Alors, ICPE, donc déjà, c'est un acronyme pour installation classée pour la protection de l'environnement, qui correspond aujourd'hui à toutes les installations supérieures à 1 MW, qui nécessite donc une déclaration en préfecture de l'ensemble de ces installations. Alors, ça peut aller jusqu'à des installations extrêmement complexes, importantes, dangereuses, risquées, notamment en industrie, par exemple. Mais aujourd'hui, sur des immeubles d'habitation ou des immeubles tertiaires, quand on a une installation dont la puissance est supérieure à 1 MW, on est obligé de la déclarer. Ce qui veut dire demain des respects de consommation, de normes, éventuellement des travaux de mise à niveau pour ce respect de l'environnement.
Une deuxième question. Je suis syndic bénévole d'une copropriété de 12 logements. Est-ce que je suis obligé d'individualiser les frais de chauffage ?
Alors en fait, l'obligation d'individualisation, elle s'applique à toute copropriété à chauffage collectif, avec toutefois ce qu'on appelle donc des dérogations possibles. De base ou de fait, l'ensemble des copropriétés sont concernées, sauf dans le cadre de trois éléments de dérogation. Un seuil de conso. Si vous êtes sous le seuil de conso, eh ben vous n'avez pas l'obligation. S'il y a une impossibilité technique, due par exemple au système de distribution ou d'émission. Et enfin, si on a un temps de retour sur investissement qui est supérieur à 10 ans, et qui donc signifie que le système n'est pas jugé pertinent pour les consommations de l'immeuble.
Une troisième question, Mathieu Le Drezen, Raphaël Trochu. Avant travaux, mon prestataire me demande le R2AT amiante. Est-ce que c'est possible et est-ce à moi de le faire ?
Alors non seulement c'est possible, mais en plus c'est obligatoire. Pour tout type de travaux aujourd'hui dans un immeuble, on est obligé de faire le repérage amiante avant travaux. Il est spécifique à l'opération de travaux et il n'y a pas d'exclusion, sauf cas très particuliers de potentielles zones inaccessibles. Mais en tout cas, par exemple, si on parle de travaux sur de la distribution CVC ou dans une chaufferie, l'obligation de repérage s'applique.
Vous confirmez, Raphaël Trochu ?
Je confirme.
Bon, parfait.
Depuis juillet 2019.
Eh bien voilà, on est en accord en plus sur les dates. Parfait. Une question d'actualité pour terminer d'un auditeur. Durant la crise sanitaire, les prix de l'énergie ont baissé. Est-ce que c'est le bon moment de renégocier ou pas ?
Alors, j'ai fait une petite vérification. Il s'avère, alors déjà d'un premier point de vue, c'est que le cours des combustibles, que ce soit gaz, électricité, fuel, bon, ce sont des cours fluctuants, hein, qui dépendent des marchés. Effectivement, il y a une grosse chute des prix du gaz, notamment pendant la période de confinement de 2020. Les cours sont à la hausse, on ne va pas se mentir. Hein, aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance à la hausse. Donc on va être sur une notion de quelle est la dernière date de négociation de mon contrat de fourniture. Si j'ai un contrat relativement ancien, j'ai peut-être un prix relativement haut, donc je peux encore renégocier. Si j'ai renégocié, par exemple, dans la période de confinement, un an plus tard aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt.
Vaut mieux garder son contrat.
Oui, il faut mieux garder son contrat. On est à peu près sur les niveaux de cours de l'année 2019 à la même période, pour vous donner un référentiel.
Un ordre d'idée, un référentiel. Ouais. Eh bien, écoutez, on est déjà au bout d'une demi-heure d'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau. Merci beaucoup, Mathieu Le Drezen, directeur commercial chez Axéo. Merci beaucoup, Raphaël Trochu, chargé immobilier et achat chez Apage Yvelines. C'était un plaisir de vous avoir en plateau. Peut-être le mot de la fin, chacun, votre tour, en quelques mots, peut-être, sur cette question d'optimisation du bâtiment, sur cette rénovation, sur cette...
Pas sur l'optimisation, en tout cas, le seul point, moi, je remercie Raphaël, puisque je pense que quand nos clients parlent plus que nous de nos missions, c'est que la satisfaction y est, et ce que je retiendrai aujourd'hui.
Eh bien, en tout cas, messieurs, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup.
Et puis moi, je vous dis à très vite. Au revoir.
Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.